Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morajibour avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est au Kenya pour démarrer sa tournée en Afrique subsaharienne. 3 morts et 33 blessés, dont 2 attentats suicides à Kampala en Ouganda. Présidentielle en Libye, le général Khalifa Haftar annonce sa candidature. Condamnation internationale après la destruction d'un satellite par Moscou. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame son premier voyage en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction. Ce soir, il est à Nairobi au Kenya, puis il se rendra au Nigeria et enfin le Sénégal. Dernière étape de ce périple qui se termine samedi. Nous faisons le point avec Eric Manirakiza.
Anthony Blinken va mettre l'accent sur la revitalisation des démocraties, le changement climatique et le développement durable, explique Erwin Massinga, haut fonctionnaire au département d'État. En toile de fond figurent les crises touchant l'Éthiopie et le Soudan, dans lesquelles s'active diplomatiquement Washington. Si ces pays s'effondrent au cours de l'année à venir, nous assisterons à un effondrement régional plus large, met en garde Johnny Carson de l'Institut américain pour la paix USAP. Monsieur Blinken discutera aussi du développement des capacités de production en Afrique de vaccins contre le Covid-19. Autre sujet qui sera abordé lors de son voyage, le commerce. L'AGOA, qui exempte de nombreux pays africains de droits de douane, expire en 2025. Monsieur Biden nous semble pressé de la remplacer face à une opinion américaine de moins en moins favorable aux accords commerciaux.
Kampala, la capitale ougandaise, visée par un attentat suicide qui a fait 3 morts et 33 blessés ce mardi. La police met en cause un groupe local lié aux ADF qui sévissent dans l'est de la RDC. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les 2 explosions se sont produites à 3 minutes d'intervalle, peu après 10 heures locales, dans le quartier d'affaires de Kampala, issomant la panique. La première attaque a été menée à un checkpoint situé près du quartier général de la police par un homme transportant une bombe dans un sac à dos. La deuxième par 2 hommes déguisés en mototaxi à proximité de l'entrée du Parlement, selon la police. Les autorités précisent que les forces antiterroristes ont arrêté un 4e kamikaze et récupéré un engin explosif artisanal non explosé chez lui. Le Parlement a annulé sa session prévue mardi, demandant à ses membres d'éviter le secteur, car les forces de sécurité travaillent dur à rétablir l'ordre. En début d'après-midi, le Parlement a nommé les membres de l'Olympique de Blanc et le
Bloqué entre des rebelles et des soldats centrafricains malgré un cessez-le-feu dans le pays, a témoigné aujourd'hui le préfet de la région. Des rebelles se sont infiltrés lors du marché hebdomadaire dimanche près de Man, ville située à environ 600 km au nord-ouest de Bangui, a précisé Dieudonné Yungaina, préfet de Luampande. En République démocratique du Congo, 6 militaires FRDC ont été arrêtés dans la province orientale du Nord Kivu. Ils sont soupçonnés d'être des coupeurs de route qui rackettaient les voyageurs, notamment sur la route nationale Rutshuru-Goma. Par ailleurs, 2 militaires ont été condamnés à mort ce week-end, notamment pour meurtre et tentative de viol, a indiqué Aimé Oumba, auditeur militaire de la garnison de Goma. Au Nigeria, le rapport préliminaire sur la répression à Lagos en 2020 d'une manifestation pacifique conclut qu'il s'agit d'un massacre. Au péage de Lekki, des membres de l'armée nigériane ont tiré, blessé et tué des manifestants non armés et sans défense, a écrit la commission d'enquête. L'année dernière, un mouvement contre les violences policières avait secoué les grandes villes du sud du Nigeria. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à la place de la Nation à Ouagadougou pour réclamer la démission de l'exécutif. Mohamed Koumsongo, le responsable du mouvement de la société civile Sauvons le Burkina Faso, principal organisateur de la manifestation, a déclaré qu'après 6 ans de tâtonnement, le président Roch Marc-Christian Kaboré a montré ses limites. Hier, une attaque attribuée à des djihadistes contre un détachement militaire a fait au moins 32 morts dans le nord du pays. Au Mali, Amadou Kébé, le célèbre rappeur et un membre de son groupe ont été libérés. Alibi a annoncé mardi dans un discours télévisé sa candidature à l'élection présidentielle du 24 décembre. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Après son discours, Khalifa Haftar s'est rendu dans un bureau de la haute commission électorale pour déposer sa candidature en promettant de conduire la Libye sur la voie de la réconciliation, de la paix et de la construction en cas de victoire. Sa candidature était attendue depuis qu'il avait annoncé en septembre dernier qu'il renoncerait pendant 3 mois à toute fonction militaire, comme l'exige la loi électorale libyenne. Cette candidature s'ajoute à celle de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, et à celle probable de l'actuel premier ministre Abdelhamid Beba. Khalifa Haftar, 77 ans, est réputé pour avoir commandé les forces de l'armée nationale libyenne. La tenue de la présidentielle et des législatives prévues le même jour, dont les modalités restent contestées par une partie des multiples factions libyennes, est encore incertaine, en dépit du soutien de la communauté internationale, réaffirmé vendredi dernier lors d'une conférence à Paris.
Au Sénégal, le rappeur Simon Kouka, membre du mouvement citoyen Y'en a marre, poursuivi pour trafic de passeports, a été remis en liberté provisoire et placé sous contrôle judiciaire après 2 mois de détention. Selon la presse locale, l'état de santé du rappeur s'est dégradé lors de son séjour en prison.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu de commencer à envisager des discussions stratégiques sur le contrôle des armements entre les deux puissances nucléaires. Le Pentagone a récemment confirmé que Pékin avait effectué en août un essai de missile hypersonique et a publié un rapport faisant état d'une accélération plus rapide qu'anticipée du programme nucléaire chinois. La Russie a admis avoir détruit avec succès un de ses vieux satellites inactifs au cours d'un tir d'essai. Washington accuse Moscou d'avoir mis en danger l'équipage de la Station spatiale internationale en générant de nombreux débris. Nathalie Barge.
Hier, le patron de la NASA, Bill Nelson, s'est dit scandalisé par une action déstabilisatrice, faisant également peser des risques sur la station spatiale chinoise. Les États-Unis savent pertinemment que ces fragments ne présenteront aucune menace, a soutenu dans un communiqué le ministère de la Défense russe. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dénoncé un acte qui démontre, selon lui, que la Russie met au point de nouveaux armements capables de détruire des systèmes de communication, de navigation et d'alerte antimissile. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a reproché aux Américains d'ignorer les propositions de la Russie et de la Chine en vue d'un accord international pour empêcher une course aux armements dans l'espace. Des tirs d'essai contre les satellites ont déjà été effectués par les États-Unis, la Chine et l'Inde. Le domaine spatial civil est l'un des rares secteurs où Américains et Russes entretiennent une coopération.
Rendez-vous en deuxième partie de ce journal pour retrouver l'analyse de Sekou Ouédraogo, président de l'organisation African Aeronautics and Space Organization.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un suspect dans l'assassinat en juillet du président haïtien Jovenel Moïse a été arrêté à Istanbul en Turquie. Samir Andal, qui voyageait avec des passeports haïtiens et jordaniens et un document de voyage palestinien, a été interpellé hier à son arrivée en provenance des États-Unis. 3 mois après l'assassinat du président haïtien, le doute persiste sur les commanditaires de cette attaque. Au moins 4 hauts gradés des forces de l'ordre haïtiennes ont été placés en détention et plus de 40 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. Enfin, le journaliste américain Danny Fenster a retrouvé ses proches ce matin à l'aéroport JFK de New York après avoir été libéré de prison et gracié en Birmanie où il a passé 6 mois en détention, condamné à 11 ans de réclusion, notamment pour incitation à la dissidence. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le projet d'électrification rurale au Congo-Brazzaville de la Banque africaine de développement veut construire 216 km de lignes à haute tension pour desservir 125 communes afin d'accroître l'accès durable à l'électricité des populations. Perco veut électrifier 60 localités dans les départements de Pointe-Noire, la Bouéza, les Plateaux, la Cuvette. Le projet prévoit aussi 71 postes de moyenne et basse tension, 5100 branchements et installer 2255 foyers d'éclairage public. Un projet de recherche de gisements de pétrole et de gaz de Shell à compter du 1er décembre au large de la très touristique Wild Coast en Afrique du Sud représente un danger pour la faune marine, selon les défenseurs de l'environnement. De nombreux animaux, dont les baleines, dauphins, phoques, pingouins et le microscopique plancton, seront menacés. Pour terminer, ici aux États-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 1,7% en octobre par rapport à septembre, bien au-dessus des attentes, selon le département du commerce. Les ventes des détaillants hors magasin, tels que les plateformes de commerce électronique, ont augmenté de 4%, tandis que celles des magasins d'électronique et d'électroménager ont augmenté de 3,8%. Les grands magasins et les vendeurs de matériaux de construction ont également enregistré des augmentations, tandis que les ventes dans les bars et les restaurants ont stagné en octobre.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'Algérie a arraché son ticket pour les barrages du Mondial à Qatar 2022, zone Afrique, face au Burkina Faso. Dans la finale du groupe A, les Fenecs ont concédé le match nul 2-2, suffisant pour les Algériens qui finissent premier du groupe A. À suivre aussi ce soir le choc Cameroun-Côte d'Ivoire dans la poule D. Les deux équipes sont au coude à coude, 13 points pour les Ivoiriens et 12 pour les Camerounais. Les Lions indomptables ont besoin d'une victoire pour finir en tête et voir les barrages. Pour le Camerounais Mouminga Maleu, c'est une rencontre de rêve.
Ce sont des matchs comme ça que tout footballeur rêverait de jouer. Des matchs avec une grosse équipe et des joueurs qui sont aussi robustes. Et voilà. Donc on peut que se réjouir pour être le jour du match.
Mouminga Maleu, joueur camerounais. En face, les éléphants n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les barrages. Pour les sélectionneurs, seule la vérité du terrain l'emportera.
C'est un match de haut niveau avec des joueurs de part et d'autre. De chaque côté, nous avons des joueurs qui ont l'habitude de jouer ces grandes rencontres.
Patrice Baumel, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Dans des rencontres sans enjeu, toujours ce soir, l'Égypte a battu le Gabon 2-1. La Libye a fait match nul 1-1 avec l'Angola. 1-0 pour le Mozambique devant le Malawi, pour rappel. Le Sénégal, le Maroc, le Mali, l'Égypte, la République démocratique du Congo, le Ghana, l'Algérie désormais et le Nigeria ont composté leurs billets pour les barrages. Au Kenya, le mari de l'athlète Agnès Tirop a été inculpé de son meurtre. Ibrahim Rotich a nié les accusations lorsqu'il a comparu devant le tribunal de grande instance d'Eldoret. Selon l'acte d'accusation, Rotich aurait tué la femme de 25 ans la veille de la découverte de son corps dans sa chambre. Le 13 octobre, en effet, le corps de Tirop a été retrouvé avec des coups de couteau à son domicile à Iten, un centre d'entraînement dans l'ouest du Kenya. Tirop était devenu l'une des étoiles montantes du Kenya, remportant le championnat mondial de cross-country. En 2015, elle a aussi été double médaille mondiale sur 10 000 mètres et quatrième sur 5 000 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année. Son assassinat est survenu à peine un mois après qu'elle a battu le record du monde dans une course de 10 km réservée aux femmes.
Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le Niger se bat sur deux fronts contre les djihadistes. Dans l'extrême sud-est, la région de Diffa subit depuis de nombreuses années des attaques de djihadistes venus du Nigeria. Dans l'ouest aussi, dans la région de Tillabéri, les massacres de civils se multiplient dans cette région dite des trois frontières. Dans une interview exclusive avec la VOA, le président Mohamed Bazoum revient sur les enjeux sécuritaires de son pays.
Ce terrorisme ne se comporte même plus comme il y a de cela 2-3 ans, parce qu'à cette époque, en effet, les terroristes s'attaquaient rarement aux populations. Mais depuis 2 années, et cette année en particulier, le mode d'action des terroristes consiste surtout à s'attaquer aux populations civiles, à les maltraiter, à les tuer, parfois même à grande échelle malheureusement, mais surtout à les extorquer, à prélever des impôts et à nuire au quotidien à leur vie. Et c'est toujours embêtant pour un régime d'être impuissant face à ces agissements, parce que tout simplement, vous voyez, nous avons un espace très vaste. Et les terroristes venant le plus souvent de pays étrangers s'attaquent à des villages qui sont totalement périphériques et font des extorsions, pillent le bétail, font des raquettes et ainsi de suite. Voilà pourquoi c'est un peu difficile aujourd'hui.
Le Niger est aussi un vaste pays enclavé et entouré de plusieurs pays à risque.
Le Niger est entouré par des pays qui connaissent des situations qui ont favorisé ce phénomène-là. Les 800 km de notre frontière avec le Mali, vous pouvez le parcourir, vous ne rencontrerez pas une seule autorité malienne, pas une seule force de sécurité ou de défense de ce pays frère. Évidemment qu'il y a là un espace qui favorise les agissements des terroristes. Nous avons une situation identique avec la frontière libyenne où nous n'avons pas là non plus de représentants de l'État, des forces de sécurité et de défense de ce pays. Ce n'est pas des facteurs qui favorisent, si vous voulez, la stabilité, et bien au contraire. Voilà donc un peu pourquoi le défi de la sécurité est un défi particulièrement difficile pour un pays comme le nôtre qui a, sur plusieurs de ses frontières, à s'occuper de ce phénomène-là.
C'était Mohamed Bazoum, président du Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Guinée, le chef de la junte, qui a refusé l'envoi d'un médiateur de la CEDEAO, a précisé à Conakry que son pays n'est pas en guerre. Dans un entretien télévisé qu'il a accordé à la presse locale, le colonel Mamadi Doumbouya appelle l'institution sous-régionale à respecter le chronogramme de la transition qui sera donné par le Conseil national de la transition. Réaction à Conakry, au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
Plusieurs questions ont été posées par 3 journalistes guinéens au président de la transition en Guinée. Dans cet exercice, le colonel Mamadi Doumbouya a donné quelques précisions. Par exemple, sur le sort de l'ancien président Alpha Condé, le chef de la junte a dit que la justice fera son travail en toute indépendance, un pan de l'entretien qui a fait réagir à Conakry.
Nous avons des bons juges. Moi, je préfère que ça dise.
Si Alpha est coupable, la justice va l'accuser. S'il n'est pas coupable, à ce moment, il sera libre, un point d'intérêt. Si on le dit ici, ça ne sera pas une bonne chose. Mais plutôt qu'on l'envoie à la haie.
Quand il disait qu'il était Nelson Mandela, qu'il était le Mandela de Guinée et tout, on croyait en lui, mais il nous a complètement trompés, complètement foutus en l'air, et la justice va faire son travail. On peut le juger ici, mais il faut d'abord revoir la justice, parce que notre justice est injuste.
La Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO. L'institution sous-régionale a maintenu sa position il y a quelques jours lors d'un sommet extraordinaire sur la Guinée et le Mali. Sur la durée de la transition, le colonel Doumbouya dit laisser cette question au Conseil national de la transition. Une autre réponse commentée par les Guinéens.
Le délai que la Fédé a donné, c'est 6 mois, c'est trop court pour une transition, je pense. Au moins, il faut aller au maximum des ans.
La Guinée a un cas particulier. La Guinée n'a pas fait un coup d'état mortel. La situation de la Guinée encombre seulement les Guinéens. Si on trouve moins, de faire moins de 2 ans, ça sera bienvenu. Mais si on ne trouve pas ça encore, pour 2 ans c'est bon. Mais il ne faut pas dépasser ça.
Si mon avis comptait, la Guinée allait quitter la CEDEAO définitivement. Qu'est-ce que la CEDEAO sert à la Guinée? Rien. La CEDEAO n'est pas une communauté économique. C'est une communauté des syndicalistes, des copains, des chefs d'État.
Le futur CNT sera composé de 81 membres, désignés par 19 structures, dont la classe politique, la société civile, les syndicats, le patronat, la presse nationale, entre autres. Seulement 15 sièges sont prévus pour les 181 partis politiques en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Des milliers de Tigréens ont été arrêtés à Addis Abeba. Les craintes de nouvelles détentions sont multipliées. Les autorités éthiopiennes ont ordonné aux propriétaires d'enregistrer l'identité de leurs locataires auprès de la police. Le point avec Ginny Kapumbu-Villa.
Un porte-parole de la police fédérale a confirmé la présence d'une police communautaire composée de bénévoles dans la capitale. Des hommes armés de bâtons ont été aperçus samedi soir dans la capitale éthiopienne recherchant des Tigréens. Cet homme témoigne et ne souhaite pas que son identité soit révélée.
Tous les Tigréens sont considérés comme des partisans ou des espions du TPLF. Toute personne ordinaire, comme les ouvriers du bâtiment ou même les femmes qui font du café, deviennent suspectes. Il est devenu si difficile pour nous de parler notre propre langue. Nous ne pouvons pas sortir, nous restons à la maison. Au nom de l'état d'urgence, ils arrêtent tout le monde sans aucune raison. Tu ne sais même pas où ils les amènent.
Le gouvernement éthiopien affirme qu'il détenait des personnes soupçonnées de soutenir les rebelles de la région du Tigré qui ont dit qu'ils s'approchaient d'Addis Abeba. Des associations de défense des droits humains, des avocats, des proches et la Commission éthiopienne des droits de l'homme créée par le gouvernement affirment que ces détentions, y compris d'enfants et de personnes âgées, semblent être fondées sur l'appartenance ethnique. L'agence Associated Press a signalé que des citoyens américains et britanniques ont été emportés dans ces rafles de Tigréens dans le cadre de l'état d'urgence.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée dans 3 pays africains. Au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, il évoquera des questions liées à la démocratie, la sécurité et la coopération économique. Ceci dans un contexte de poussée russe et chinoise sur le continent. Quel est l'état et l'avenir de la coopération entre Washington et le continent africain dans les domaines économiques et sécuritaires? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Moscou a fait feu lundi de la Terre sur un vieux satellite soviétique à l'occasion d'un test qui, selon les États-Unis, a généré un nuage de près de 1500 débris
potentiellement dangereux pour la station orbitale et une foule de satellites. L'incident a forcé les 7 personnes à bord de l'ISS, la station spatiale internationale, à se réfugier provisoirement dans leur vaisseau amarré à la station pour permettre, si nécessaire, leur évacuation. Pour une analyse, Arzuma Compaoré a joint l'ingénieur en aéronautique Sekou Ouedraogo, président de l'African Aeronautics and Space Organization, une organisation qui a pour objectif de convaincre les décideurs africains à utiliser le satellite et le drone pour le développement durable du continent et pour les applications civiles.
On rentre en fait dans un problème qu'on appelle vulgairement le droit spatial, en fait, parce que il y a rien qui empêche une nation de lancer un missile, ou même de lancer un satellite qui sera amené à se détruire, par exemple. Aujourd'hui, de toute façon, il y a beaucoup trop de débris dans l'espace, on le sait. Même si certains débris, au bout de plusieurs années, naturellement, se détruisent dans l'atmosphère, il y en a certains qui restent une cinquantaine, une centaine d'années. Donc, ça met en péril l'accès à l'espace. Là, avec tous les satellites qui vont être lancés, avec toutes les constellations qui sont en projet, là, aussi bien par Elon Musk que par le propriétaire d'Amazon, ils veulent lancer des milliers de satellites. Donc c'est clair que même s'ils sont dans des orbites qui sont basses et qui peuvent être détruits en une dizaine d'années, mais en attendant, il y a des risques qui sont des risques de collision qui sont énormes, en fait. Je pense que ça va être ça la limite de l'envoi des satellites dans l'espace.
Pour pouvoir atteindre, détruire un satellite dans l'espace, quel type de technologie il faut mettre en œuvre?
C'est extrêmement complexe. On a un satellite qui tourne autour de la Terre à une certaine vitesse. Donc déjà, il est mouvant, il bouge. Nous, on lance un missile de la Terre, donc ça veut dire que tout est en mouvement, en fait, en permanence. Et il faut être capable d'aller toucher la cible. C'est hyper complexe. En plus, on change de milieu. On part d'un milieu avec de l'oxygène pour arriver dans un milieu sans oxygène. Donc c'est hyper complexe, avec toutes les contraintes de température, de pression. C'est extrêmement compliqué, hein. Il y a peu de nations qui le font, d'ailleurs. Il me semble qu'il y en a 3. Il y a les États-Unis, il me semble. Il y a la Russie, l'Inde, je crois, ou la Chine. Connu à ce jour. Hein.
Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de créer autant de débris dans l'espace?
Ah non, mais c'est sûr qu'il va y arriver un moment où ça va poser un gros problème. Hein. En ce qui concerne toute la conquête de l'espace, la conquête de Mars, ou même la capacité à aller sur la Lune, l'idée c'était de passer par une station internationale ou une base qui serait en orbite peut-être soit autour de la Terre, soit voilà, pour pouvoir aller plus loin. Il est infini, certes, l'espace est grand, mais il est limité quand même. Hein. Enfin, l'espace qui se trouve justement autour de notre planète, il est limité. Il va falloir trouver une solution, soit peut-être réguler l'envoi des satellites, je ne sais pas comment, ou alors peut-être empêcher les tirs de missiles, mais après c'est dans le cadre de la défense et la souveraineté des États. C'est difficile d'empêcher un État de se défendre, en fait.
C'était Sekou Ouedraogo, président de l'African Aeronautics and Space Organization, une organisation qui a pour objectif de convaincre les décideurs africains d'utiliser le satellite et le drone pour le développement durable du continent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Gisèle Morissin, Michel Joseph et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com bien sûr. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA.